La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'histoire de Taïwan, où les nationalistes chinois s'exilent en 1949 suite à la prise de pouvoir de Mao sur le continent. Au nom de la lutte contre le communisme, le parti unique de Chiang Kai-shek impose son régime par la terreur. Mais à Taïwan, les résistants sont de plus en plus nombreux. La lutte s'organise autour d'un nationalisme taïwanais, indépendant des conflits internes à la Chine.
En fait, mes premières idées politiques ne concernaient pas seulement la démocratie, mais plutôt l'envie de mettre un terme à cette fatalité taïwanaise qui fait qu'on est toujours contrôlé par les autres. En grandissant, j'ai donc décidé que j'allais mettre fin à cette situation d'occupation. Mon idée, c'était de faire la révolution militaire et de mettre cet oppresseur à la porte. J'étais prêt à donner ma vie pour cet idéal.
La voix de Chemin 2 dans la marche du monde, celui que certains Taïwanais aiment à comparer à Nelson Mandela, est l'un de nos grands témoins dans ce second épisode consacré à l'histoire de la démocratisation de Taïwan, dont le nom officiel est encore la République de Chine. Si le parti nationaliste chinois du Kuomintang s'est réfugié sur l'île de Taïwan en 1949 avec près d'un million de Chinois venus du continent, c'est parce qu'il a perdu la guerre civile contre Mao et les communistes. Mais dans les années 80, l'autoritarisme du Kuomintang se heurte à la montée en puissance d'un sentiment d'identité taïwanaise, un sentiment renforcé par les persécutions de la terreur blanche. Le vent a donc tourné et le parti doit faire face à la réalité de son double échec. Non seulement le Kuomintang ne reprendra pas le pouvoir en Chine continentale, mais en plus, le Kuomintang devra accepter de renoncer à sa position dominante de parti unique pour répondre à un désir profond de démocratie exprimé par les Taïwanais. Taïwan, un long chemin vers la démocratie, c'est un reportage long format proposé par notre correspondant Adrien Simor à Taipei.
Le mémorial de Jingme se trouve dans le sud de la capitale taïwanaise Taipei. Dans les années 1960, ce camp militaire fut utilisé comme un centre de détention et d'interrogation par le régime du parti nationaliste chinois du Kuomintang. C'est aujourd'hui devenu un mémorial national en hommage à cette période qu'on appelle la Terreur Blanche. Et sa visite permet vraiment d'apprécier tout le chemin parcouru par Taïwan depuis la fin de la dictature, et encore plus quand elle se fait en compagnie de Monsieur Chin. Monsieur Chin a été emprisonné sans raison dans les années 1970. Il a dû attendre l'an dernier pour être réhabilité, pour être innocenté par le gouvernement taïwanais. Il est aujourd'hui guide bénévole au musée.
All the prisoners are incarcerated in the Renai building.
Tous les prisonniers étaient emprisonnés dans ce bâtiment. Normalement, cette porte n'est pas ouverte au public, mais moi j'ai le droit d'entrer, je connais le code.
I was in this room for 1.5 years.
J'étais dans cette chambre pendant un an et demi. Comme vous le voyez, c'est très humide. Et pendant l'été, c'est extrêmement chaud et humide. La porte, elle est fermée 24 heures sur
24.
Et la nourriture passe par une petite trappe. C'était un moyen de nous humilier. On était vraiment traités comme des animaux.
Monsieur Chin, est-ce qu'à ce moment, vous comprenez, vous savez les raisons de votre arrestation ?
Quelques semaines après, j'ai reçu un document d'inculpation dans ma cellule. Il y avait un membre des renseignements qui avait été arrêté à cause de conflits internes. Il m'a demandé s'il pouvait lire le document. Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Quand il a lu, son visage a changé, il tremblait et il m'a dit « C'est horrible, votre chef d'accusation prévoit la peine de mort. »
«
Ma vie a complètement changé. Je ne pouvais plus dormir. Je ne peux pas décrire cette sensation. C'était tout simplement horrible. Heureusement, on m'a seulement condamné à 12 ans de prison. J'ai appris plus tard que c'était parce qu'un jour, j'ai dit quelque chose de bien sur le communisme. Ils ont dit que cela était de la propagande. Voilà la charge. Et ce genre de choses pouvait me conduire à la mort.
J'ai lu que pendant vos 12 années en détention, vous chantiez beaucoup et que cela vous a aidé à tenir pendant tout ce temps.
Oui, j'ai toujours chanté, car c'est la seule chose qu'on peut faire quand on se sent mal. Donc quand je m'ennuyais, je chantais, mais bien sûr à voix très basse. Vous voulez que je chante ?
Before the martial laws was lifted, people dared not talk about that.
Avant que la loi martiale ne soit levée, personne n'osait parler. Ce n'est qu'après 1992, lorsque l'ensemble des lois répressives ont été levées, qu'on a commencé à raconter cette histoire. La première fois que j'en ai parlé, ça a été très douloureux. Je n'ai pas pu dormir pendant 10 jours, je faisais des cauchemars. Mais après quelques temps, j'ai senti que c'était important, car les jeunes voulaient vraiment connaître ce passé. Je me suis donc dit que ça valait le coup pour que les jeunes apprennent du passé et qu'ils puissent décider de leur futur et choisir ce qu'ils veulent faire pour protéger la démocratie et la liberté.
To protect the democracy and the freedom.
Alors ce matin, une classe de terminale de Taipei est justement venue visiter le mémorial et le silence est impressionnant parmi les élèves après les témoignages d'anciens prisonniers comme celui de Monsieur Chin. Les jeunes élèves préfèrent rester anonymes mais par contre ils répondent volontiers aux questions.
Moi, quand j'ai dit à ma mère que je voulais visiter un musée sur la Terre Blanche, elle m'a dit « Quoi ? Mais pourquoi tu veux voir ce genre d'exposition ? Si tu dis n'importe quoi pendant la visite, est-ce que tu peux te faire arrêter ?» Je lui ai dit « Maman, aujourd'hui à Taïwan, c'est une démocratie, on peut parler de tout. » Mes parents me parlent très rarement de cette histoire. Quand j'ai dit à mon père que j'allais visiter ce musée, et il m'a dit que j'avais de la chance de pouvoir comprendre ce qu'il s'est passé à cette époque.
Et ce soir, en rentrant, tu sais ce que tu diras à tes parents ?
Je pense que je leur dirai que cette partie de l'histoire est très douloureuse, mais qu'on ne doit pas l'oublier, parce que ça a été une étape du chemin de Taïwan vers la démocratie.
Si M. Ching peut aujourd'hui témoigner au micro de notre correspondant Adrien Simor, c'est grâce au sacrifice de nombreux militants taïwanais. Un long travail de résistance commencé à la fin des années 70. Depuis 1971, le siège de la Chine à l'ONU a été transféré à la République populaire de Chine de Pékin, alors qu'il était occupé précédemment par la République de Chine à Taïwan. Et en 1979, les États-Unis de Richard Nixon décident de rompre leurs relations diplomatiques avec Taipei. Réduits au silence, les démocrates et les indépendantistes taïwanais se saisissent de cet événement diplomatique pour se fédérer autour des idées de démocratie et d'indépendance. Et l'un de leurs premiers leaders se nomme Che Ming-de. Comme vous l'avez entendu en ouverture de ce second épisode, son rêve de jeunesse, c'était de renverser le parti de la Terreur Blanche, le Kuomintang. Et il a payé son engagement dès 1962 par de nombreuses années de prison.
J'ai
été jugé et j'ai failli être condamné à mort. Les gens derrière moi ont été fusillés. Mais pendant les tortures, j'avais déjà perdu toutes mes dents et je portais un dentier. C'est sûrement pour ça que j'ai seulement été condamné à la prison à vie. Ces 15 années en prison m'ont rendu encore plus sûr de la trajectoire qui devait prendre Taïwan. Quand je suis sorti de prison, je savais que le temps de la révolte militaire était terminé et qu'il fallait utiliser des méthodes pacifiques pour atteindre mon idéal. Donc après, on a commencé à utiliser une autre méthode. Et c'est comme ça qu'on a commencé le magazine Formose, ou Meilitao en mandarin. Ça veut dire la belle île de Taïwan.
Ce premier magazine devient très célèbre. Ses 4 numéros s'écoulent à plus de 300 000 exemplaires. Monsieur Che, vous qui en étiez le directeur, quel était votre objectif avec la création de ce magazine ?
Il nous fallait un idéal commun, une organisation, de l'argent et de la communication. C'est comme ça qu'on est arrivé à la création du magazine Formose. En fait, c'était une sorte de partie sans nom. On a ouvert des bureaux de liaison dans plusieurs grandes villes du pays. Le but était de réunir toutes les forces d'opposition du pays.
Monsieur Che, quelles sont les principales idées, les principales théories que vous cherchiez à défendre avec cette sorte de première organisation politique?
À ce moment, on était vraiment sous la dictature. Les gens ne pouvaient pas entendre d'opinions différentes ou s'informer librement. On voulait donc tout simplement dire à la population qu'on voulait la liberté, que la démocratie signifiait d'être les maîtres chez soi et non des opprimés. C'était très simple comme concept, mais à ce moment, c'était très dur de faire connaître ces idées aux gens.
Monsieur Che, est-ce qu'à l'époque, vous mentionniez déjà l'idée d'indépendance de Taïwan ?
Personnellement, avant d'être emprisonné, j'avais l'idée de la renaissance de la nation taïwanaise. Parce qu'en 1895, il y avait eu une république démocratique de Taïwan très éphémère. Je ne voulais pas parler de mouvement pour l'indépendance parce que l'indépendance implique que la Chine est notre mère patrie. Mais la Chine n'est pas notre mère patrie. À l'origine, Taïwan ne faisait pas partie de la Chine. Et la Chine communiste ne nous a jamais gouvernés. Mais à ce moment, si on parlait de l'indépendance, on se faisait fusiller. Si on parlait de la liberté ou des droits de l'homme, on était seulement arrêté.
C'est d'ailleurs ce qui arrive en 1979. L'ensemble de l'équipe dirigeante du magazine Formose est arrêté. Mais sous la pression internationale, les journalistes sont finalement invités au procès. Pour la première fois, l'opposition taïwanaise a des visages, 8 au total, dont vous, Che Ming-de. Et sur une des photos du procès, on vous voit tout sourire, les mains dans les poches. D'ailleurs, cette photo, elle est imprimée juste derrière vous. Monsieur Che, à ce moment-là, alors que vous allez être condamné à mort, où est-ce que vous trouvez ce courage de sourire ?
Je savais que j'allais me faire condamner à mort. Mais parfois, le langage corporel est la meilleure façon de se défendre contre la dictature. Avant l'ouverture du procès, je me suis quand même demandé si j'allais avoir le courage. Est-ce que je serais vraiment capable de sourire? Je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, mais je me demandais si j'allais oser. Pendant le procès, on m'a demandé, est-ce que tu veux renverser le gouvernement? J'ai répondu, oui, parce qu'il y a les interdictions sur la presse, sur les partis, la loi martiale, et l'assemblée qui n'a pas été renouvelée depuis 30 ans. Et puis, j'ai utilisé ce procès pour parler de l'indépendance de Taïwan. Au procès, j'ai dit, en réalité, Taïwan est déjà indépendant depuis 30 ans. Et son nom actuel est la République de Chine. Le fait de le dire au procès, ça a permis à tous les Taïwanais d'entendre ce mot « indépendance » pour la première fois.
Meili Dao veut dire Belle Île, traduit en anglais par Formose, du même nom que la revue dont les dirigeants sont arrêtés juste après la sortie de cette chanson en 1979. Une chanson dont l'album serait interdit par le Kuomintang. Les paroles sont pourtant poétiques et non pas politiques, mais son titre, portant le même nom que la revue Formose, est assimilé par le Parti nationaliste aux revendications indépendantistes. Elle sera ensuite chantée à plusieurs reprises par les militants hors parti, puis en 1990 par les étudiants sur la place Chiang Kai-shek, lors du mouvement des lys sauvages. Dans les années 80, à Taïwan, les leaders de la contestation sont neutralisés lors du procès du magazine Formose. Et leur leader, Cheming II, condamné à perpétuité, ne sera libéré qu'en 1990. Mais la machine est lancée et ne s'arrêtera pas. D'abord, parce que le procès a été médiatisé par la présence de journalistes, une première victoire pour le combat des militants. Ensuite, parce que cette médiatisation a permis une large conscientisation de Taïwanais anonymes, touchés par les arguments des accusés. C'est ainsi que le mouvement de résistance, dénommé hors parti, c'est-à-dire en dehors du parti nationaliste chinois, prend de l'ampleur tout au long des années 80, comme le raconte M. Yu, photographe et distributeur de livres à l'époque. Une action déterminante pour faire entendre les voix de l'opposition en pleine censure.
Le palais Longchamp est un des lieux touristiques incontournables de Taipei. Ce grand temple coloré fut construit au XVIIIe siècle par les migrants venus de Chine. Il a été partiellement détruit par les bombardements américains lors de l'occupation japonaise. Aujourd'hui, le parvis du temple est aussi un lieu de rendez-vous pour le troisième âge taïwanais. Les jours de beau temps, comme aujourd'hui, on vient jouer aux échecs chinois, parier un peu d'argent ou simplement écouter de la musique sur de petits postes à piles. C'est ici que M. Yu a donné rendez-vous.
Ici, c'est le quartier le plus ancien de Taipei. À l'époque, les habitants du quartier soutenaient plus facilement les mouvements hors parti. Quand il y avait des élections ou des événements politiques, on venait ici. Ces rassemblements ont commencé dans les années 70. Mais dans les années 80, il y en avait beaucoup plus. Par exemple, je me souviens de la manifestation du 19 mai 1980. Ça s'est passé dans l'enceinte du temple. Au début, il y avait 40-50 personnes. Ils étaient venus pour demander la fin de la loi martiale. Les policiers les avaient enfermés à l'intérieur du temple. On pouvait encore sortir, mais personne ne pouvait entrer. Comme à l'intérieur, il n'y avait rien à manger, les habitants du quartier sont venus et jetaient de la nourriture depuis l'extérieur, du pain, des zongze et de la soupe pour aider les manifestants.
Dans les années 80, M. Yu a tout juste la vingtaine. Avec sa bande d'amis, il abandonne ses études avec une idée en tête, renverser le parti nationaliste chinois du Kuomintang. Pendant plus de 10 ans, il contribue à diffuser les publications censurées par le gouvernement.
Le procès du magazine Formose a eu une très grande influence sur nous. À ce moment-là, je faisais mon service militaire. Tous les soirs, à minuit, j'allais à l'Université nationale de Taïwan écouter des journalistes et des avocats qui venaient discuter du procès. Dans les journaux, on rapportait en détail tout ce qui avait été dit au tribunal. C'était accessible à tout le monde. Ça nous a fait entendre des arguments qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Par exemple, j'ai appris que le concours pour entrer dans le gouvernement était basé sur la constitution de la Chine. Donc le nombre de postes réservés aux Taïwanais était bien moindre. Tous les membres du gouvernement étaient des continentaux arrivés de Chine en 1949. J'ai compris que nous, les Taïwanais, on était vraiment considérés comme des citoyens de seconde zone.
Monsieur Yu, dans les années 80, vous choisissez, vous, avec vos amis, de vous lancer dans la distribution de magazines et d'ouvrages interdits par le Parti nationaliste chinois. Pourquoi c'était important à cette époque pour vous d'utiliser cette méthode ?
Dans les années 50, on avait vu des gens se faire emprisonner pendant 15 ans uniquement pour avoir participé à des clubs de lecture. C'était des sacrifices inutiles. Dans les années 80, après le procès du magazine Formose, les choses avaient commencé à changer. Les règles s'étaient un peu assouplies. Mais le parti nationaliste chinois du Kuomintang contrôlait encore tous les médias et les journaux d'opposition étaient interdits. Donc la seule manière de s'opposer et de faire entendre d'autres voix, c'était de lancer des magazines.
À ce moment, Taïwan est toujours sous la loi martiale. À quelles difficultés est-ce que vous faites face pour diffuser ces ouvrages et pour diffuser vos idées ?
À l'époque, il y avait environ 6 ou 7 magazines des mouvements hors parti. Les auteurs et les éditeurs avaient formé un groupe de coordination, ça nous permettait d'avoir plus de force. Par exemple, s'il y avait une descente de police, on pouvait appeler les autres magazines pour avoir de l'aide. Et puis, quand je distribuais les magazines aux libraires, j'étais souvent suivi. Pour éviter de me faire attraper, je devais changer tout le temps de véhicule. Un jour, j'ai essayé d'utiliser un camion qui distribuait des serviettes hygiéniques, mais ils me l'ont quand même confisqué. Malgré la censure, on arrivait quand même à toucher beaucoup de monde. Chaque semaine, on pouvait vendre environ 20 000 exemplaires d'un seul magazine. Et ça se diffusait très vite. Il y avait à Taipei une rue avec de nombreuses librairies. C'est devenu un lieu très vivant, avec des stands pour vendre les magazines interdits.
Pourquoi avoir continué à faire ces activités malgré tous les risques que ça comportait ?
Pour moi, c'était le sens de la responsabilité, c'était comme une mission. Il fallait qu'on sauve le pays en renversant le Kuomintang. Sinon, on allait rester des esclaves. On préférait mourir que de ne pas avoir de liberté.
En 1985, le Parti démocrate progressiste est créé et en 1986, la loi martiale est levée. Monsieur Yu, selon vous, quelle a été l'influence de ces magazines sur la démocratisation de Taïwan ?
Je pense que ça a vraiment réveillé les gens. Ça nous a fait réfléchir à ce que voulait vraiment dire la démocratie et à comment le gouvernement devait se comporter avec les citoyens. Et pas comme le Parti nationaliste chinois a fait en nous trompant constamment. En fait, c'était une forme d'éducation collective. Ça nous a fait réaliser que c'était normal de résister, de se révolter. Les idées des mouvements hors parti se sont répandues et de plus en plus de gens ont réalisé que la démocratie était très importante.
La Marche du Monde est à Taïwan à la rencontre des femmes et des hommes, témoins et acteurs de la démocratisation de leur pays. Ils sont les militants hors parti, comprenez hors du parti unique, le Kuomintang. Et depuis des années, ils ont résisté à la répression et milité malgré la censure pour enfin créer le Parti démocrate progressiste en 1986. L'homme fort du parti au pouvoir est alors Chiang Ching-kuo et il laisse faire. Et mieux, il lève la loi martiale un an plus tard, en 1987. Mais pour obtenir des élections libres et démocratiques, il faudra encore se battre la peur au ventre. Un an après le massacre de Tiananmen à Pékin, 6000 étudiants taïwanais occupent la place du mémorial Chiang Kai-shek en plein cœur de la capitale Taipei. Fan Yun est alors l'une des jeunes leaders de ce mouvement. Depuis, elle est devenue députée du Parti démocrate progressiste.
I came from a quite a traditional or conservative family.
Je viens d'une famille très conservatrice, très traditionnelle. Quand j'étais jeune, ils soutenaient tous le parti au pouvoir, c'est-à-dire le régime autoritaire du parti nationaliste chinois, du Kuomintang. Donc, je savais très peu de choses de la vraie situation politique de Taïwan.
When I got into the National University, it was 1986. I got to know the.
En 1986, je suis entrée à l'université. Université nationale de Taïwan, j'ai découvert un large mouvement étudiant qui s'appelait le Mouvement pour la liberté d'expression. Je les ai rejoints et ça a vraiment été le début de mon réveil politique. J'ai découvert la véritable histoire de Taïwan. J'ai également appris les théories des sciences sociales, comme par exemple le marxisme. À cette époque, le principal débat au sein des groupes étudiants concernait la démocratie. On se demandait ce que voulait dire la démocratie. Et est-ce qu'on en a besoin maintenant? Et est-ce qu'on en aura besoin dans 30 ans?
After 30 years, and another heated topic is about whether Taiwan should be part of China.
Et l'autre débat très important, c'était la question de l'appartenance de Taïwan à la Chine. Le régime autoritaire nous disait que comme Taïwan faisait partie de la Chine, les représentants de toutes les provinces de Chine devaient continuer à siéger à l'Assemblée au cas où Taïwan devrait un jour refaire partie de la Chine. Donc si on voulait la démocratie, il fallait résoudre ce problème historique de l'appartenance ou non de Taïwan à la Chine. Pour moi, à cette époque, c'était encore dur de penser à l'indépendance de Taïwan. Donc ma réponse temporaire était, peu importe que Taïwan fasse un jour partie ou non de la Chine, ce que nous voulons maintenant, c'est une vraie démocratie.
Real democracy.
Justement, en 1990, le président par intérim Lee Teng-hui doit être réélu par cette assemblée controversée. C'est le moment que vous, les étudiants, choisissez pour passer à l'action. Madame la députée Fan, pouvez-vous nous raconter comment débute le mouvement des listes sauvages?
Sometimes the activists will be debating whether we have to prioritize social equality issue.
À cette époque, les activistes débattaient parfois pour savoir si on devait plutôt mettre en avant les questions sociales ou bien la démocratie. Mais au moment où le président par intérim Lee Teng-hui allait être réélu par le vieux Congrès, on est arrivé au consensus que la démocratie devait être notre priorité.
Should be the issue. Right now, so we decide to enlarge our activity to cooperate with other students from.
Donc, on a commencé à élargir nos activités avec toutes les universités autour de Taïwan, et on est arrivé au consensus qu'il fallait organiser un événement au mémorial de Chiang Kai-shek.
The Chiang Kai-shek Memorial. At that time, we were quite conservative, so later on, we decided to have a picket line.
Quand l'occupation de la place a débuté, on était très prudent, donc on a tracé un espace où seuls les étudiants pouvaient entrer, parce que la police essayait de nous effrayer. Elle faisait comme si elle allait réprimer le mouvement. On avait peur qu'il déclenche des incidents, par exemple en brûlant des choses et dire que c'était la faute des étudiants.
Quels sont les slogans, les discours qu'on peut entendre sur la place du mémorial Chiang Kai-shek?
I think the most radical slogan you will see probably just a bring down the KMT.
Je pense que les slogans les plus radicaux que l'on pouvait voir à ce moment-là, c'était « Faites tomber le Kuomintang ». Certains disaient aussi « Le printemps de Taipei », comme pour le printemps de Prague. Et puis on était en 90, donc on voulait faire écho au mouvement d'Europe de l'Est.
« People's movement in the Eastern Europe ». I think the atmosphere was very tense. Because the students were getting
Mais en fait, l'atmosphère était très tendue et au fur et à mesure, les étudiants s'agaçaient, ils étaient anxieux, car ils avaient l'impression que le président Li Tenghui allait ignorer notre mouvement. Moi, en tant qu'organisatrice du mouvement, j'étais inquiète. Je me disais que si le président Li ne donnait aucune réponse à nos demandes, les étudiants allaient se radicaliser et le gouvernement allait peut-être décider de réprimer. On était dans l'ombre du massacre de Tiananmen qui avait eu lieu un an avant et on ne voulait pas que cela arrive à Taïwan.
Finalement, Madame la députée Fan, vous êtes reçue au palais présidentiel par le président Li Tenghui en personne, aux côtés d'une cinquantaine d'étudiants. Quels sont vos souvenirs de ce moment et qu'est-ce que Li Tenghui va vous dire?
The thing I remember vividly is that he didn't only promise all the demands that we asked for.
La chose dont je me souviens de manière très claire, c'est qu'il n'a pas seulement promis de mettre en œuvre toutes nos demandes, mais il essayait aussi de nous convaincre que quand il était jeune, il était comme nous, un activiste. Ça m'a beaucoup impressionné. Pour ma part, j'ai surtout essayé de me tenir à mon rôle d'organisateur. J'étais inquiète. Je me disais que si je n'écrivais pas tout ce qu'il nous disait, peut-être qu'un jour il allait dire qu'il n'avait jamais dit ça. Donc, je n'arrêtais pas de prendre des notes en listant chacun des points qu'il disait. À la fin, je lui ai lu mot à mot ce que j'avais écrit et je lui ai demandé, Monsieur le Président Li, est-ce que vous êtes d'accord avec ces points? Il n'a rien dit. Ça, c'était ma stratégie.
Li Tenghui tiendra finalement ses promesses dans un temps très court. La première élection présidentielle au suffrage universel a lieu en 1996 et en 2000, le Parti démocrate progressiste remporte la présidence. Comment expliquez-vous, Madame la députée Fan, que contrairement à la Chine après Tiananmen, Taïwan va emprunter le chemin de la démocratie?
Actually, the KMT was considered a migrant regime.
Je pense que le Parti nationaliste chinois était considéré comme un régime migrant à Taïwan, ce qui n'était pas le cas du Parti communiste en Chine. Donc pour nous, la taïwanisation, cela voulait aussi dire la démocratisation. Aujourd'hui, 30 ans après le mouvement des listes sauvages et celui de Tiananmen, on voit bien que les deux sociétés, ces deux nations, ont complètement divergé. Wang Dan, un des leaders de Tiananmen, est un bon ami à moi. On s'est rencontrés aux États-Unis. Aujourd'hui, il ne peut pas rentrer dans son pays car il est sur la liste noire. Et moi, je suis devenue députée. On ne vit pas dans le même monde.
Si les revendications des étudiants ont été si rapidement mises en œuvre, c'est grâce à la volonté politique du premier président né à Taïwan, Li Tenghui. Le monsieur démocratie taïwanais va réussir à manœuvrer en faveur de réformes démocratiques malgré les réticences de la vieille garde du Kuomintang, le parti nationaliste chinois. Avec notre correspondant à Taipei, Adrien Simor, on pousse les portes du palais présidentiel avec pour guide l'enseignant-chercheur Stéphane Corcuff de Sciences Po Lyon. Il est spécialiste de Taïwan et il a connu personnellement Li Tenghui, le président.
Allez, c'est ça. On est au palais présidentiel de la République de Chine à Taïwan. C'est un bâtiment qui a été inauguré en 1919 dans un style très propre à la période coloniale japonaise qu'on retrouve en Corée, à Taïwan et dans d'autres pays d'Asie, et qui est probablement l'un des plus beaux bâtiments qui restent de cette époque coloniale japonaise. Et pendant l'époque de Chiang Kai-shek, c'est un endroit qui était redouté par les Taïwanais, parce que c'était là qu'était Chiang Kai-shek, c'était l'endroit où était qui représentait la dictature. Et c'est un endroit majestueux, c'est le même endroit qui a fabriqué, en partie sous la pression populaire bien sûr, hein, la démocratisation de Taïwan par Li Teng-hui, dans l'un des extrêmement rares exemples de l'histoire du monde de passage d'une dictature à une démocratie sans un mort et sans un coup de feu, quoi.
Stéphane Corcuff, comment expliquer que Li Teng-hui, qui est né à Taïwan, qui est natif de Taïwan, devienne en 1984 le vice-président d'un régime dominé par les Chinois du continent, dominé par les continentaux?
En fait, ce qui se passe, c'est que Li Teng-hui est natif de Taïwan, n'a jamais été en Chine et il a pas partagé cette histoire continentale de la République de Chine. Il est né en 1923, la République a été fondée en 1912, et puis il vit les événements de 1947 pendant lesquels l'armée continentale va littéralement trucider l'élite taïwanaise. Donc on peut imaginer que le jeune intellectuel qu'il est, qui se forme à l'agriculture et à l'agronomie, est en fait tétanisé par ce qui se passe et que ça va vraiment fonder sa préférence de la démocratie pour la dictature. Mais il faudra beaucoup de temps pour qu'il puisse l'exprimer et pour cela qu'il monte les degrés. Alors il va suivre un parcours technocratique, disons on va dire d'enseignement et de technocrate, où il va participer aux différentes réformes qui sont faites à Taïwan dans l'agriculture et dans l'hygiène de la population, notamment rurale. Et puis, Chiang Ching-kuo le nomme maire de Taipei. Ce qui fait qu'en fait, ça va confirmer pour Chiang Ching-kuo le fait que ce Taïwanais de souche, dans un état structuré par les continentaux, hein, fait partie de ceux qu'il va faire monter pour tamoiniser légèrement le régime. C'est un choix délibéré, mais il y a une interprétation historique à donner sur est-ce qu'il sent, Chiang Ching-kuo, qu'il va falloir passer la main aux Taïwanais, ou est-ce qu'il sent que le mythe de la Chine républicaine, de la Chine entière représentée par Taïwan, où les continentaux sont 900 000 dans une population qui compte en 49 6 millions de personnes de souche, ça ne peut pas tenir. Et effectivement, là, on peut imaginer que le choix de Chiang Ching-kuo est clair. Il le nomme vice-président à l'occasion de l'inauguration de son nouveau mandat en 84. Ce mandat qu'il ne finira pas puisqu'il meurt 4 ans après.
Justement, 2 ans après cette arrivée au pouvoir inédite, Li Teng-hui fait face au mouvement étudiant des Lys sauvages. Stéphane Corcuff, vous dites que Li Teng-hui a une préférence pour la démocratie, mais à ce moment, ce n'est pas forcément le cas de la vieille garde du Parti nationaliste chinois. Comment est-ce que Li Teng-hui y parvient à manœuvrer à ce moment pour démocratiser le régime?
Ils ne comprennent pas, les étudiants à l'époque, qu'en fait, Li Teng-hui est en train de jouer une partie très fine. Il vient de nommer comme Premier ministre un continental conservateur et dont on a toujours peur qu'il fasse un coup d'État. Li Teng-hui, lui qui est démocrate, mais qui ne peut pas aller très vite à cause du temps qu'il faut pour un démocrate s'il ne veut pas être expulsé immédiatement par les conservateurs, il va retourner les étudiants contre son Premier ministre et contre les conservateurs en expliquant, écoutez, je me mets un peu à sa place, on ne va pas faire à Taipei ce que nos ennemis communistes ont fait à Pékin alors que nous sommes les représentants de la démocratie de Sun Yat-sen. Et paf, ils sont coincés. Et donc, il va accéder officiellement aux demandes des étudiants d'accélérer la démocratisation du régime, qui sont son propre programme. C'est brillant. Et fin 92, ils ont réélu l'Assemblée nationale, qui a disparu depuis, et le Parlement, qui existe toujours aujourd'hui.
Le président Li restera dans l'histoire pour avoir initié la démocratisation de Taïwan, mais aussi pour avoir réinventé le récit national hérité du Kuomintang. Avec Li Tengrui, le rêve taïwanais n'est plus le rêve du retour en Chine, mais le rêve d'une nation taïwanaise pour les Taïwanais dans une relation d'État à État entre Taipei et Pékin. Pourtant, le drapeau, les symboles et son nom, la République de Chine, restent inchangés. Des vieux habits rejetés par la jeunesse, car ils sont associés tout autant au passé autoritaire du Kuomintang que menace toujours pesante de la Chine continentale et communiste. Avec le groupe Fear Ext, c'est toute la question de l'identité taïwanaise qui est posée.
En fait, à l'école, on n'a jamais vraiment appris l'histoire de Taïwan. Tout ce qu'on a étudié, c'est l'histoire de la
Chine. Donc, en
grandissant, on a appris la véritable histoire, celle que les livres n'osaient pas écrire. Ça a eu un grand impact sur nous. Quand on a compris cette facette de notre histoire, ça a tout de suite soulevé une question majeure chez nous. C'est de notre identité. Est-ce qu'on est vraiment la République de Chine ou plutôt Taïwan? On a réalisé qu'il y avait encore beaucoup d'efforts à faire sur cette question. Et cela fait 20 ans qu'on y travaille.
Justement, un de vos albums les plus connus s'appelle Stand Up Like a Taiwanese ou Tiens-toi debout comme un Taïwanais. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase pour vous ?
Dans les années 70, lorsque le fils de Chiang Kai-shek, Jiang Jingguo, est allé aux États-Unis, un indépendantiste taïwanais a essayé de l'assassiner. Quand il s'est fait arrêter, il a crié « Let me stand up like a Taiwanese ». Pour moi, le sens de cette phrase, c'est de souhaiter que Taïwan soit reconnu comme un pays par le reste du monde et que les Taïwanais soient fiers de cette identité. Par exemple, il y a beaucoup de sportifs taïwanais très célèbres. Mais quand ils participent aux compétitions internationales, le nom du pays qu'ils représentent, c'est Taipei Ching. Ce n'est pas Taïwan. Donc ce nom de Taïwan n'est pas accepté par le reste du monde. Pourtant, c'est très important pour nous. Donc, quand on dit « Tiens-toi debout comme un Taïwanais », on sous-entend que Taïwan devrait avoir son indépendance et devrait être reconnu comme un pays pour qu'on puisse enfin nous appeler les Taïwanais.
Aujourd'hui, Taïwan est une démocratie avec une société civile qui se mobilise régulièrement sur de très nombreux sujets. Selon vous, quel est aujourd'hui le sujet politique le plus important pour les jeunes Taïwanais?
Pour nous, chaque sujet est très important. Par exemple, la protection de l'environnement, la justice du logement ou la loi pour le mariage homosexuel qui est passée il y a 2 ans. Je pense que c'est nécessaire de continuer à se mobiliser sur ces sujets. Mais le problème le plus urgent pour Taïwan, c'est ce voisin puissant et menaçant qui s'appelle la Chine et qui attend l'occasion de pouvoir nous annexer. Le plus inquiétant, c'est que la Chine a beaucoup de soutien à Taïwan,
qui contribue à diminuer la solidarité au sein de notre pays. Donc si on s'inquiète au moment des élections, c'est parce qu'il y a des candidats qui sont clairement des agents de la Chine et qui menacent notre souveraineté. Ça, ça reste la question la plus délicate du moment.
Dans votre dernier album, il y a un morceau qui évoque la démocratisation de Taïwan. Et d'ailleurs, les paroles sont en taïwanais et non en mandarin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi parle ce morceau ?
Les paroles évoquent le long chemin vers la liberté de ces 100 dernières années et parlent de tous ces gens qui ont sacrifié leur vie pour cette cause et qui ne sont plus là aujourd'hui. Avec cette chanson, on veut dire que leur âme est encore à Taïwan et qu'ils sont semés des graines qui nous permettent de continuer à lutter pour notre dignité et de marcher vers notre indépendance.
D'une génération à l'autre, les Taïwanais construisent leur propre modèle démocratique, mais comme le montrent nos deux épisodes, c'est au prix d'un passé répressif douloureux et d'une menace d'invasion permanente de la Chine. Bien que la jeune génération se soit libérée de la peur et se dise prête à se battre en cas d'intervention chinoise, la question de l'indépendance reste entière. Taïwan, un long chemin vers la démocratie. C'était le second épisode, un reportage long format, signé Adrien Simor, réalisé par Sophie Janin et produit par Valérie Nivelon. N'hésitez pas à réécouter le premier épisode, disponible sur la page de lamarchedumonde.fr. Réagissez sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre podcast. Cette émission, c'est la vôtre.
记者问女学生等等，却里怕不怕了？女学生说很怕，但她第一天就准备好了。然后学生们举起双手，表示不抵抗。接着该在胸腔的热血洒在地上，警察没得休息，爸妈打不通，孩子手机，老师为了学生背攻击倒地抽血，喷水车从历史课本里出现，帮你温习。馒头鲜血，学生喊着不是警察的问题，受伤学生哭着一应答，说爸爸也是警察，人民被逼到厮杀，对立不断激化。这是时代悲歌，这回合。 我们没辙接着，早上的蛋台湾天空是黑的。我们生，经历命运巨棒的伟大，我的头在流血，但不曾垂下。我们盼。